Dans son article, Amédée Mourabou nous plonge au cœur de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 9, tenue à Yokohama du 20 au 22 août 2025. Sur le papier, un sommet stratégique pour l'Afrique et la République démocratique du Congo. Une rencontre où se croisent chefs d'État, décideurs économiques et grandes puissances autour de promesses de croissance, d'investissement et de partenariat durable.
Mais Mourabou insiste. Derrière les beaux discours et les photos officielles, les équilibres réels sont tout autres. Les calculs sont plus subtils, les rapports de force plus froids. La scène diplomatique ressemble davantage à une partie d'échecs où la RDC se contente, trop souvent, de déplacer des pions sans stratégie globale.
Mourabou souligne ce paradoxe avec force. La RDC est arrivée à Yokohama avec une délégation pléthorique menée par la première ministre Judith Suminwa. Tout y passe. Suite 5 étoiles, billets business class, per diem généreux. Le tout financé par un trésor public déjà sous tension. À première vue, on pourrait croire à une offensive diplomatique d'envergure.
Le retour sur investissement est presque inexistant. Pendant que Kinshasa collectionne les promesses, les grandes puissances, elles, avancent leurs pions avec des stratégies millimétrées. Comme l'écrit Mourabou, les communiqués brillent d'annonces séduisantes, mais sur le terrain, les projets stagnent. La RDC revient souvent les mains vides.
L'article va plus loin, il nous ramène dans les années 1970 et 1980, quand les entreprises minières japonaises exploitaient le Katanga. Derrière les profits, des histoires sombres, enfants métiers abandonnés, infanticides supposés, des blessures jamais reconnues qui pèsent encore sur les relations actuelles avec Tokyo.
Mourabou nous rappelle que ce passif n'est pas anodin. Il plane sur chaque promesse de coopération. Derrière les sourires diplomatiques, il y a des mémoires douloureuses qui n'ont jamais cicatrisé.
Et le Japon d'aujourd'hui n'est plus celui des années 80. Troisième économie mondiale, oui, mais une croissance quasi inexistante, une dette publique de 200% du produit intérieur brut et une population vieillissante. Comme le note Mourabou, chaque yen promis ressemble désormais à un billet forcé sur une carte bancaire déjà saturée.
Fini le temps des méga-projets financés à coups de milliards. Aujourd'hui, l'aide japonaise se concentre sur la formation, la gouvernance, le développement durable. Tokyo se positionne comme un fournisseur d'expertise plus qu'un investisseur massif. Une approche qui séduit peu des pays comme la RDC, qui ont besoin d'argent frais pour mines, énergie et infrastructures.
Pendant ce temps, Pékin investit massivement, ports, chemins de fer, centrales électriques, mines, la Chine structure ses chaînes logistiques en RDC et ailleurs, même l'Inde progresse. Face à ses appétits, le Japon tente de reprendre pied, mais il avance à petits pas.
Mourabou le dit clairement, TICAD n'est pas seulement un forum de coopération. C'est une scène où se joue une bataille géo-économique mondiale. Et au centre, la RDC, avec ses minerais stratégiques, cobalt, lithium, cuivre, coltan, plus de 70% du cobalt mondial sort de son sol. Une richesse vitale pour les batteries, les voitures électriques, les technologies vertes.
Et pourtant, la RDC n'a toujours pas de stratégie claire. Kinshasa arrive avec une liste de demandes interminables, mais aucune hiérarchie, aucune feuille de route. Comme l'écrit Mourabou, nous assistons au match depuis les gradins pendant que d'autres dictent les règles du jeu.
Pendant que Tokyo, Pékin et Washington sécurisent l'accès au cobalt congolais, nous restons spectateurs. TICAD 9 devient une vitrine diplomatique coûteuse, pas un levier pour transformer notre économie.
La question que pose Mourabou est simple. Quel est le return on investment diplomatique? Quel retour concret obtenons-nous en finançant ces délégations massives? Peut-on continuer à dépenser sans exiger de résultats?
L'auteur plaide pour une rupture, passer d'une diplomatie de représentation à une diplomatie de performance. Avant chaque sommet, il faut définir des objectifs précis, attirer des financements stratégiques, négocier des transferts de technologies, sécuriser des contrats structurants.
Le problème, comme le note Mourabou, est que nous n'avons pas de politique industrielle cohérente. Sans vision économique, la RDC ne sait pas quoi exiger. Résultat, elle subit les agendas des autres. Pékin structure les mines, Tokyo sécurise ses approvisionnements, Washington signe ses deals, et nous applaudissons.
Pour sortir de cette logique, il faut cibler les partenaires selon nos besoins. Japon pour les technologies vertes, Corée pour la digitalisation, Chine pour les infrastructures, Europe pour les normes industrielles. Sans cette sélectivité, nous continuerons à dilapider notre capital diplomatique.
Sinon, comme le dit Mourabou, TICAD, ZED, ZEB, BRICS et autres resteront des vitrines luxueuses. On dépensera des millions pour voyager, loger, représenter, pendant que nos minerais financeront le développement des autres.
Le cobalt, le lithium, le cuivre, c'est notre atout majeur. Mais tant que la RDC exporte les minerais bruts, les Congolais resteront prisonniers d'un modèle extractif qui nous appauvrit. L'histoire coloniale se répète, mais sous un vernis diplomatique.
Et le temps presse. Dans 10 ans, les infrastructures seront déjà construites, les alliances verrouillées, les marchés capturés. Sans stratégie claire, Kinshasa sera marginalisé dans la transition énergétique mondiale.
Le potentiel est immense. Nous pouvons imposer des coentreprises, exiger des quotas d'exportation de produits transformés, négocier des transferts de technologies. Mais cela suppose une diplomatie disciplinée, adossée à une vision industrielle solide.
Alors, comme le dit Amédée Mouarabou, voulons-nous continuer à financer des tournées touristiques diplomatiques ou allons-nous enfin transformer nos ressources en levier de puissance économique?
C'est une nécessité. Chaque délégation, chaque forum doit être évalué à l'aune des résultats concrets. Investissements obtenus, transferts technologiques négociés, infrastructures financées. La RDC doit rompre avec la diplomatie de représentation pour adopter une diplomatie de performance, fondée sur des objectifs précis et des indicateurs mesurables.
Le monde construit déjà la transition énergétique. La RDC doit choisir, continuer à la subir ou enfin la conduire.
Il faut définir des priorités nationales, cibler les partenaires selon leurs forces. Par exemple, le Japon pour les technologies vertes, la Chine pour les infrastructures, et négocier des contreparties vérifiables. Sans cette discipline, la RDC risque de répéter le cycle des occasions manquées et de voir son capital diplomatique s'éroder sans bénéfice pour sa population.